L'Europe est-elle en déclin depuis la fin de la Première Guerre mondiale, alors que certains pôles mondiaux se développent? C'est la thèse de l'ancien ministre français Jean-Pierre Chevènement, qui publie un ouvrage sur la question, ouvrage intitulé 1914-2014, l'Europe sortie de l'histoire, point d'interrogation, publié chez Fayard. Jean-Pierre Chevènement, qui nous fait le plaisir d'être notre invité ce matin en direct de Paris. Bonjour.
Bonjour.
Vous étiez plusieurs fois ministre en France, éducation nationale, défense, intérieur. Vous êtes actuellement sénateur du territoire de Belfort, Jean-Pierre Chevènement, électron libre au sein de la gauche, si j'ose dire. Vous affichez depuis des années votre euroscepticisme. Vous êtes président d'honneur du mouvement républicain et citoyen. Et dans ce livre, vous décrivez le déclin inéluctable de l'Europe depuis un siècle, marginalisé par les pôles dominants, par la mondialisation aussi. Vous plaidez clairement pour une Europe des nations qui réinventerait sa monnaie et ses frontières. Alors c'était hier, puisqu'on parle de 1914, les commémorations de l'armistice, de la Grande Guerre, avec un arrière-goût de récupération politique quand même, la tentative du président Hollande de resserrer les rangs, et le fait qu'il ait été hué, vous avez vu ça Jean-Pierre Chevènement, que pensez-vous d'abord des personnes qui ont hué le président ?
Je pense qu'elles manifestent leur incivisme. Le 11 novembre est un jour de recueillement. La France a perdu pendant la Première Guerre mondiale 1 400 000 hommes. Et je dirais que cette Première Guerre mondiale n'a été que le début d'une guerre plus longue, une guerre de 30 ans qui ne s'est véritablement achevée qu'en 1945. Donc c'est une journée de recueillement et il n'y a pas place pour les hourvaries et les huées.
La construction européenne a été voulue comme un antidote à cette Europe des nationalismes ravagée par deux guerres mondiales. Pourtant, vous, Jean-Pierre Chevènement, vous ne croyez pas à ça. Vous continuez à plaider pour une Europe des nations, c'est ça ?
Eh bien, je pense que la nation est le cadre de la démocratie, qu'elle est par conséquent le ressort du politique. Et je constate que si l'Europe a beaucoup décliné au cours du siècle passé, ce n'est pas seulement du fait des deux guerres mondiales, mais du fait d'un mécanisme de décision totalement abolique. Disons que les institutions européennes nous privent de toute politique cohérente en matière commerciale, industrielle, monétaire. Nous avons une monnaie surévaluée et par conséquent, le citoyen aujourd'hui se trouve tout à fait dépourvu de prise sur les décisions que prennent la Commission européenne, qui est investie d'un monopole de propositions législatives et réglementaires. C'est quand même formidable que les nations soient laissées réduire à un rôle d'amendement. Nous n'avons pas de politique monétaire parce que c'est la Banque centrale européenne qui maintient la monnaie la plus surévaluée du monde, qui handicape notre compétitivité, et naturellement le reste à l'avenant, nous sommes en pilotage automatique. Donc le citoyen ressent quelque part que la décision échappe même à son gouvernement, que les marges de manœuvre des gouvernements se sont tellement réduites qu'il ne peut plus rien faire, sinon peut-être faire la guerre.
Oui. Bon, il y a la reprise cette semaine, Jean-Pierre Chevènement, des négociations entre l'Union européenne et les États-Unis sur les accords de libre-échange. On a les échos de la NSA qui ont occasionné un léger refroidissement. Est-ce que c'est pas la preuve justement que l'Europe doit justement parler d'une seule voix pour se faire entendre? Est-ce que c'est possible ça avec l'Europe des nations? Est-ce qu'elle fait le poids là?
Écoutez, la France a imposé la prise en compte de ce qu'on appelle l'exception culturelle, c'est-à-dire le fait que la culture, les œuvres de l'esprit ne sont pas des marchandises comme les autres. Mais aussitôt, Monsieur Barroso, président de la Commission européenne, a déclaré que cette position était réactionnaire. C'est-à-dire que nous sommes aux mains d'institutions ultralibérales qui veulent détruire, par exemple, les normes qui, d'une certaine manière, protègent l'Europe du point de vue de la santé, du point de vue phytosanitaire, du point de vue de l'environnement. Et il y a lieu d'être préoccupé quand nous voyons qu'en réalité, l'Europe n'est qu'une construction à l'ombre de la tutelle américaine. L'Europe telle qu'elle a été conçue, parce que moi je suis européen, mais je ne suis pas européiste, je fais cette distinction. L'européisme, ça consiste à dire on fait un marché, et puis, pour ce qui est de la défense, de la politique extérieure, on s'en remet aux États-Unis. Or, quand on s'en remet pour des choses essentielles aux États-Unis, on voit bien que, y compris sur le plan économique, y compris sur le plan de nos réglementations touchant à l'environnement ou à la santé, eh bien, ils nous grignotent. Donc, c'est cette conception-là que je mets en cause, et je pense qu'une autre Europe fondée sur la réalité des nations permettrait de mieux définir ce que nous avons en commun et les efforts que nous devons faire pour exister dans le 21e siècle, qui sera dominé par les États-Unis et la Chine, mais pas par l'Europe.
Alors vous accusez l'euro de tous les maux, Jean-Pierre Chevènement. Vous proposez de passer de la monnaie unique à la monnaie commune. Est-ce que vous pouvez expliquer la nuance ?
Je n'excuse pas l'Europe de tous les maux.
L'euro, je disais l'euro.
Ah, l'euro, oui.
Oui, l'euro. Vous proposez de passer de la monnaie unique...
conception.
Ouais. Et vous, vous parlez de la monnaie commune. Qu'est-ce que vous entendez ? Quelle nuance faites-vous entre monnaie unique et monnaie commune, Jean-Pierre Chevènement ?
Eh bien, la monnaie unique s'applique à des pays dont la structure économique est extrêmement différente. Pour aller aux extrêmes, l'Allemagne et la Grèce. Mais même l'Allemagne et l'Italie, l'Allemagne et l'Espagne, même l'Allemagne et la France. Hein, disons que l'Allemagne a un tissu d'entreprises moyennes que la France a perdu. La France a tout sacrifié à la création de grands groupes de taille mondiale. Mais ça a beaucoup d'inconvénients, parce que ces grands groupes investissent et prospèrent à l'étranger et oublient un peu la France. Donc, nous sommes dans une situation où, du point de vue de la monnaie, une monnaie forte convient très bien à l'industrie allemande, qui est spécialisée dans le haut de gamme. Une monnaie trop forte écrase l'industrie française, qui est plus sensible aux effets prix, qui est plus sensible à la concurrence par les prix. Et on calcule que l'Allemagne peut s'accommoder d'un euro à 1,80 $, tandis que l'industrie française souffre au-dessus de 1,24 $. Je cite mes sources, ce sont les Échos. C'est un journal proche du patronat, extrêmement bien fait d'ailleurs, et que je lis attentivement tous les jours.
Il faut revenir au franc, Jean-Pierre Chevènement.
Il faut revenir à un système où une monnaie commune chapeaute des monnaies nationales reconstituées, mais qui fluctuent dans d'étroites bandes fixées par négociation en fonction de la compétitivité de chaque pays. Et on pourrait imaginer même une circulation parallèle, l'euro étant réservé aux transactions internationales. Hein, on pourrait aussi imaginer des travelers chèques en euros. Mais cela permettrait de faire l'économie de déflation très douloureuse. L'observation que je fais, elle a été faite par un économiste allemand connu, Otto Werner Zinn, qui a montré que entre les deux dévaluations, la dévaluation externe et la dévaluation interne, la plus douloureuse est évidemment la dévaluation interne, celle qui est mise en œuvre en Grèce ou en Espagne. Et qu'il vaudrait mieux avoir un système d'ajustement plus souple quand on a fait une erreur. Et la monnaie unique est une erreur, avec un péché originel, c'est la méconnaissance de l'hétérogénéité des nations constitutives. Mais quand on a fait une erreur, on doit être capable de la redresser.
Il y a des élections européennes l'année prochaine, en mai. On s'attend à un succès des eurosceptiques qui pourraient former d'ailleurs, et peut-être paradoxalement, le groupe le plus important au Parlement européen. Vous souhaitez, vous, que le Parlement européen penche dans le sens eurosceptique, même si ça peut par ailleurs profiter à la droite dure et au courant populiste? C'est un risque à prendre, Jean-Pierre Chevènement?
Vous savez, le mot eurosceptique me laisse perplexe. Je ne pense pas que ça existe. Il y a des gens qui critiquent la construction européenne pour des raisons assez différentes. Je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. Hein, le Front National, le Front de Gauche, et pourquoi pas le mouvement républicain et citoyen, ou le mouvement de M. Dupont-Aignan. Je pense que ce sont des gens différents. Comme il y a des gens différents parmi les partisans fanatiques de la monnaie unique, qui, je vous le rappelle, a été portée sur les fonts baptismaux en France par la droite et par la gauche, et en Allemagne également par la CDU et le SPD.
Vous citez le Front National, il n'est pas inconnu que d'ex-chevènementistes, comme on dit, ont rejoint les rangs du FN, notamment pour la présidentielle il y a 2 ans. Qu'est-ce que ça vous a fait ? Vous avez observé ça comment ?
Mais ce sont des campagnes, monsieur, ce sont des campagnes. Il y a un dirigeant du Front National qui déclare avoir soutenu ma candidature en 2000. Moi, je ne l'ai jamais rencontré. Il se peut qu'il existe, qu'il se soit radicalisé. Mais le Front National a développé son audience sur la base d'une politique gravement erronée et qui est celle de tous les gouvernants de droite et de gauche depuis au moins 3 décennies.
Politique souverainiste, c'est ce que, là, vous vous rejoignez.
Mais écoutez, c'est en 1983 que le Parti socialiste accepte ce qu'il appelle la parenthèse libérale, et en fait qui sacrifie les outils de politique nationale dont il disposait jusque-là. Et le Front national apparaît à Dreux, à l'automne 83, puis aux européennes de 84. Donc il y a une étroite corrélation entre cette politique pseudo-européenne, en fait néolibérale, ce ralliement au néolibéralisme, et la montée d'un électorat protestataire aux idées peu claires, exploité par la démagogie d'un parti venu de l'extrême droite et qui aujourd'hui essaye de revêtir la tenue camouflée. Mais je considère que naturellement, il a attiré des gens venant de partout, de la droite, de la gauche, et je dirais, il y a même le directeur de cabinet de M. Juppé, la semaine dernière, l'a rejoint. Alors vous voyez, c'est un phénomène normal. Quand un mouvement se développe, il attire des gens venus d'ailleurs.
Jean-Pierre Chevènement, il est question du président Hollande dans la presse suisse romande, Georges Popp, qui fait face à la grogne des Français, qui a jamais été aussi bas dans les sondages, 21%. Hollande, le plus impopulaire, c'est à la une du journal Le Temps.
Oui, François Hollande, au visage fermé, accablé, en première page. Il a appelé à l'unité des Français à l'occasion des célébrations de l'armistice. Hier, on en a parlé, il a été hué. En Bretagne, la révolte des bonnets rouges ne faiblit pas. Elle risque de s'étendre à tout l'Hexagone. En Bretagne, où les plans sociaux chez les volaillers ou dans les abattoirs font fondre les emplois. Bretagne, frappée par la crise de l'agroalimentaire. Selon un expert de l'INRA, l'Institut National de Recherche Agronomique, la filière aviaire bretonne s'est développée sur les restitutions mises en place par l'Union Européenne. On savait depuis des années que ces subventions allaient cesser, mais il y a eu un manque d'anticipation. Petit espoir, il vient de Chine. Les Chinois vont construire en Bretagne une usine de lait en poudre, peut-être pour la Bretagne le rêve d'un nouvel or blanc.
Jean-Pierre Chevènement, est-ce que vous soutenez cette révolte des bonnets rouges, comme on les appelle ?
Écoutez, je ne la soutiens pas parce que je considère qu'un dialogue doit exister entre les travailleurs concernés, dont je comprends la réaction, hein, que les choses soient claires, et le gouvernement. Il y a des choses à faire. Par exemple, la crise dépend très largement, enfin résulte très largement, de la concurrence de pays à mener sous-évalués. Le Brésil, qui dans des fermes gigantesques produit des poulets en série avec un real, le real c'est la monnaie brésilienne, dévalué. Vous avez évoqué les restitutions. Effectivement, c'est le gouvernement précédent, dont le ministre de l'Agriculture était M. Bruno Le Maire, qu'on entend guère s'exprimer, qui a prévu d'arrêter les restitutions. Hein. Et troisièmement, il y a une directive européenne qui permet l'emploi à très bas coût de travailleurs originaires d'Europe centrale et orientale, en Allemagne. Hein, pas seulement en Allemagne, mais ce sont les Allemands qui, pour des raisons géographiques, en profitent le plus. Donc, je ne soutiens pas une révolte qui, pour le moment, s'en prend essentiellement au portique ou au symbole de l'État. Donc, j'en appelle au dialogue. Hein, j'exprime ma sympathie à ces travailleurs de l'agroalimentaire breton qui sont frappés par une politique qui vient de très loin et qui n'est pas simplement, je dirais, le fait des choix du gouvernement actuel.
Comment jugez-vous justement la gauche au pouvoir? 21%, il n'a jamais été aussi bas dans les sondages, plus bas même que Sarkozy à l'époque. Et on parle parfois de quinquennat perdu. Est-ce que c'est aussi votre appréciation?
Vous savez, Nicolas Sarkozy était très impopulaire aussi. Et il y a une tendance, peut-être française, à critiquer les personnes plutôt que le fond des politiques. Moi, je n'attaque jamais les personnes et j'incite les Français à faire preuve de plus de civisme à l'égard d'un président qu'ils ont élu au suffrage universel jusqu'en 2017. Donc nos institutions sont fortes, elles permettent à François Hollande d'être président de la République, il a une majorité à l'Assemblée nationale, il fera le moment venu les choix nécessaires. Je souhaite qu'il aille très loin, c'est-à-dire dans la voie d'un véritable changement de politique qui dépend dans l'Europe telle qu'elle fonctionne aussi très largement des choix allemands. C'est parce que l'Allemagne a mené une politique contracyclique depuis 2003-2004 les plans Arts ou l'agenda 2010, qu'elle a aujourd'hui un excédent commercial qui représente 7 points de PNB. Il est évident que l'Allemagne, par son poids, aujourd'hui déséquilibre la zone euro. Donc il faut que l'Allemagne joue son rôle de locomotive de la croissance européenne. Il faut que la Banque Centrale Européenne se comporte comme une banque centrale comme les autres. Et puis, au fond, je crois qu'il faudra réfléchir au vice originel de la monnaie unique pour la corriger et pour négocier un système qui soit viable dans la longue durée.
Vous proposez aussi, on parle d'Allemagne, vous proposez aussi, Jean-Pierre Chevènement, de revoir les frontières de l'Europe, incluant pourquoi pas un partenariat avec la Russie. Est-ce que la Russie de Poutine est fréquentable ?
Mais écoutez, ce qui se dit sur la Russie de Poutine est souvent tout à fait excessif. Je me rends fréquemment en Russie. Je dois vous dire que les industriels français que je rencontre sont vent debout contre l'image de la Russie qui est donnée en France. Je pense que le président Poutine a été élu conformément à la Constitution depuis 20 ans. Cette Constitution a d'ailleurs 20 ans. Elle date de 1993. Il dispose incontestablement d'une majorité, ce que confirment les sondages. L'opposition est divisée et M. Navalny n'est peut-être pas un symbole très crédible. Alors je ne dis pas que tout ce que fait M. Poutine est bien et que j'y adhère. Non. Mais ce qui est dit est tout à fait exagéré. J'assistais à un entretien entre nos deux premiers ministres, M. Hérault et M. Medvedev. M. Hérault a posé le problème des gens de Greenpeace.
J'allais vous le soumettre, oui.
Voilà, qui était allé, j'aborde moi-même ce sujet, et qui était allé à l'abordage d'une plateforme pétrolière en mer de Barents, dans l'Arctique. Et M. Medvedev a dit, écoutez, je ne sais pas si vous êtes jamais allé sur une plateforme pétrolière ou gazière, mais vous êtes toujours escorté par un pompier, car la moindre étincelle peut provoquer un désastre écologique, comme il s'en est produit, par exemple, dans le golfe du Mexique. Et tout cela est quand même une chose très sérieuse. Eh bien, naturellement, ils auront à répondre, enfin les gens de Greenpeace, de leurs actes devant la loi russe, comme j'imagine chez vous, les gens de Greenpeace s'introduisant dans une centrale nucléaire auraient à répondre de leurs actes.
On les emprisonnerait pas plusieurs années, ça c'est sûr, en Suisse, en tout cas pas.
Ah ben, pas en Suisse ni en France, où ils sont immédiatement libérés et se retrouvent sur le pavois de la radio et de la télévision. Ce sont des héros. Hein. Alors, je pense que pas Monsieur Hérault, hein.
Ce sont oui, des héros. Oui, on l'a bien compris, ce n'était pas un jeu de mots.
Hein, ce n'est pas un jeu de mots. Donc, je pense qu'ils ont été transférés d'une prison qui était à Mourmansk, dans une prison de Saint-Pétersbourg. Ils vont être jugés, certainement ils seront relâchés, c'est normal. Bah, donc, c'est... Mais en même temps, leur acte n'est pas anodin. Hein. Et nous, considérer qu'on peut tout faire, hein, avec l'approbation d'une bien-pensance médiatique qui permet absolument tout à un certain nombre de gens qui ne respectent aucune règle, ce n'est pas très républicain.
L'armée française, vous avez été ministre de la Défense de mai 88 à janvier 91. L'armée française, peau de chagrin, Patrick Chaboudet, c'est le titre d'un article du Monde qui examine l'évolution prévue à la lumière des budgets disponibles.
Oui, la France veut conserver la panoplie complète des moyens militaires, mais l'armée a pris, selon certains experts, la forme d'un bonsaï taillé sans relâche sous l'effet de la contrainte budgétaire. Alors, quelques exemples. D'ici 2019, les effectifs vont passer de 315 000 à 235 000 hommes. Les heures d'entraînement des forces françaises sont inférieures aux normes de l'OTAN. Et la France va redéfinir à la baisse ses opérations extérieures. Avec ce cas concret, la France en 2019 ne pourrait plus enchaîner deux opérations comme celles menées en Libye et au Mali. D'où cette interrogation du quotidien Le Monde. 2009-2019 sera-t-elle la décennie du déclassement militaire français ?
Réponse de votre part, Jean-Pierre Chevènement, à cette question-là ?
Elle ne doit pas l'être. Je pense que la loi de programmation militaire est évidemment calibrée au plus juste. Je rappelle un budget de 31,4 milliards d'euros par an pour les trois prochaines années. Aucun programme majeur n'a été sacrifié. Ils ont simplement été étalés dans le temps. Et naturellement, nous espérons tous que la France sortira de la phase de stagnation prolongée où elle se trouve, mais qui est très largement due au système de la monnaie unique tel que nous le connaissons. connaissons. Donc il y a un rapport entre ce déclassement stratégique que craignent certains et d'autre part un choix qui se révèle mortifère avec 20 ans de recul. Disons que la Libye n'était peut-être pas à mes yeux une intervention parfaitement opportune. En tout cas, elle est allée très au-delà de ce qui était prévu selon moi dans la résolution 1973. Ce n'était pas une résolution qui visait au changement de régime et on en voit aujourd'hui les résultats. Sur le terrain, un pays qui est aux mains de milices, pour la plupart islamistes, il faudrait quand même faire des analyses a posteriori. S'agissant du Mali, cette intervention était tout à fait justifiée et a évité que le Mali devienne un sanctuaire d'Acmi. Mais pour autant, tant que le Mali n'aura pas restauré la concorde entre les populations du sud et du nord, je ne serai pas rassuré sur les perspectives de l'éradication du terrorisme. Il est évident qu'il y a là un problème qui est consubstantiel aux frontières qui ont été dessinées pour le Mali depuis 50 ans. Et il y a des populations d'ethnies extrêmement diverses. Maintenant, pour revenir à l'armée française, bonsaï, écoutez, vous avez cité le chiffre de 235 000 hommes. Ouais. C'est vrai que j'étais ministre de Défense, il y en avait 450 000. Mais c'était l'époque du service national. Nous avons une armée qui aujourd'hui exerce pleinement la fonction de protection du territoire national et des Français, la fonction de dissuasion. Nous avons la seule dissuasion réellement autonome en Europe, ne dépendant que d'elle-même, une capacité de projection que tous les autres pays européens aujourd'hui peuvent encore nous envier. Quant aux normes OTAN, dont vous avez parlé, pour ce qui est de l'activité, elles ne sont respectées nulle part. Alors on peut toujours mettre l'accent sur le fait que les normes d'entraînement opérationnel sont inférieures aux normes OTAN, mais allez voir dans les pays voisins, c'est encore pire.
Juste un mot, on n'a pas eu le temps de l'aborder, c'est important quand même, vous connaissez bien la Suisse, et vous dites de la Suisse qu'elle est un exemple de démocratie transnationale réussie. Elle a raison de rester en dehors de l'Union européenne, la Suisse, Jean-Pierre Chevènement.
Écoutez, il en a tous les avantages et aucun des inconvénients. Donc, franchement, je trouve que vous avez bien joué. Et j'admire la Suisse, moi-même, me sentant un peu suisse, parce que mes racines viennent de là-bas, viennent du canton de Fribourg, et même de la partie germanophone du canton de Fribourg. Donc, j'admire la Suisse d'avoir réussi à faire une synthèse démocratique avec trois peuples qui, en Europe, sont effectivement les trois plus grandes nations d'Europe occidentale. L'Allemagne, la France et l'Italie. C'est une belle réussite. Vous pouvez en être fier. Bon, cela dit, vous avez votre propre système d'organisation, vous avez la neutralité, et puis vous jouez un certain jeu dans la mondialisation que tout le monde ne pourrait pas se
Absolument.
Permettre.
Absolument. Oui.
Donc, je crois que l'Europe doit se faire avec les nations, et pourquoi pas un jour avec la Suisse, si vous le décidez, bien entendu, mais aussi avec l'Angleterre, avec la Russie, et même un jour avec les pays du Maghreb, qui appartiennent à l'espace méditerranéen, et que nous avons, à mon avis, intérêt à ancrer au développement du Nord, c'est-à-dire de l'Europe tout entière.
L'Europe sortie de l'histoire, je rappelle le titre de votre ouvrage, avec un point d'interrogation, 1914-2014. C'est publié chez Fayard. On vous remercie beaucoup d'avoir été notre invité, Jean-Pierre Chevènement, direct de notre studio de Paris. Bonne journée.
Merci.